Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. C'était Nazir, page 64, Daf Samer Dalet. Bonne écoute et bon limoud.
La Gemara demande, Maïtama de Tanakama, quelle est la raison du premier auteur de la Mishnah? Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas la différence entre le sol et les ustensiles? Et pourquoi dit-il donc qu'un doute levé concernant une impureté flottante? Alors, nous déclarons l'objet pur. La Gemara répond, Amarabi Trakbaravudimi, Ktiv, parce que le Pasuk dit concernant l'impureté transmise par les reptiles morts. Le Pasuk dit, voici les impurs, Bechol Hasheret Hashoret, parmi les reptiles qui rampent. Nous pouvons déduire de là, donc, Kol Makom Shoshoret, n'importe où ce reptile est rampant, il transmettra l'impureté quand il est mort. Uktiv, et le Pasuk conclut en disant, Ala Aret, c'est-à-dire les reptiles rampants sur la terre. Nous pouvons comprendre donc que la condition pour que le reptile transmette l'impureté quand il est mort, c'est que quand il se retrouve sur le sol. Haketzad, comment est-ce qu'on résoudra cette contradiction et on appliquera les deux parties du Pasuk? Alors, Vadaï Magao, si nous sommes certains que le reptile mort a touché Tamé, il est impur dans n'importe quelle condition, même s'il est flottant ou il n'est pas en contact avec le sol. Safek Magao, mais si nous avons un doute s'il l'a touché ou non, là, il sera pur puisqu'il n'est pas sur la terre. D'ailleurs, comme le Roche le précise, la halakha concernant les impuretés flottantes ne s'appliquera non seulement quand il s'agit d'une impureté flottante dans l'eau, mais même s'il s'agit d'une impureté qui est en suspension dans l'air, qui est par exemple jetée. Aussi, cette halakha s'appliquera si nous avons un doute donc à ce sujet, l'objet sera déclaré pur. Et cela parce que l'impureté en question n'est pas en contact avec la terre. Rabbi Shimon Maitama, Agmara continue à demander, et quelle est la raison de Rabbi Shimon, pourquoi il fait cette différence entre le cas du doute qui se lève dans un ustensile ou dans le sol? L'Agmara répond, Amarula Ktiv Achmayan, etc. Le Passouk concernant la pureté des reptiles dit, seulement une source sera pure, Uktiv. Et le Passouk conclut en disant, Venoga Baem Yitma, celui qui les touche sera impur. En fait, là aussi nous avons une contradiction, parce que nous pouvons comprendre que si le reptile se trouve dans une source, il n'y a pas d'impureté. Alors que par la suite, le passage nous dit que si on touche un reptile, on devient impur. Haketzad, comment est-ce que nous résoudrons ce problème? Et nous appliquerons donc les deux parties du passage. Tzafa bekelim tamé. S'il s'agit d'un reptile qui flotte dans un ustensile, alors celui qui le touche, ou celui qui a un doute s'il l'a touché, est devenu impur. Bekarka. Par contre, si ce doute s'est levé dans une étendue d'eau qui se trouve dans le sol, donc comme la source, alors puisque ces doutes s'élevaient dans le sol, cette personne sera pure. Tanu Rabbanan, nos chachamim ont enseigné dans une braïta. Kol hanitlim, partout où le doute se lève concernant une impureté qui est accrochée à un fil, qui est portée donc par quelqu'un, et nous avons un doute si l'impureté a touché un objet ou une personne. Vehanigarim, ou concernant une impureté qui est traînée par terre. Et nous avons un doute si, en traînant cette impureté par terre, est-ce que un objet ou une personne sont devenus impurs. Tzfekan tamé. Alors, nous déclarons que dans le cas du doute, ils seront impurs. Mipneshen kmunachim, parce qu'ils sont considérés comme étant posés par terre. Finalement, puisque ce doute s'est levé dans un domaine privé, alors nous déclarons que l'objet est devenu impur. Vehanizrakim. Par contre, si le doute s'est levé concernant une impureté qui a été jetée dans l'air, Sfekan Tahor, dans le cas du doute, nous déclarons que cet objet est resté pur. Chutz min kazait hamet, à part le cas d'un morceau de la taille d'une olive de chair provenant d'un cadavre qui aurait été jeté, et nous avons un doute si cette chair de cadavre est passée au-dessus d'un objet ou d'un homme et ils sont devenus impurs parce qu'ils se sont trouvés en dessous de cette chair de cadavre. Donc c'est la Touma de Ohel, ou bien Vehama'ahil al-Penea Touma, ou bien si nous avons un doute, si une personne est passée au-dessus d'un cadavre ou d'un morceau de cadavre, par exemple, comme le Tosfot l'explique, il s'agit d'un cas où il y avait un cadavre dans de l'eau, et une personne marchait dans cette étendue d'eau, il a un doute s'il est passé au-dessus de ce cadavre ou non, et s'il était passé au-dessus, donc il était devenu impur parce qu'il s'est trouvé dessus. וכל דבר שמטמא מלמעלה כלמטה, et aussi si ce doute se lève concernant toute chose dont l'impureté est transmise, soit si elle est au-dessus de cette impureté, soit si elle est en dessous. Les ituyeza vezava, la Gemara explique que cela vient inclure celui qui est atteint de la Touma de Zav ou de Zava. En effet, nous savons que le Zav transmet l'impureté, par exemple, sur un lit, s'il se couche dessus, même s'il ne le touche pas. Par exemple, il y a plusieurs épaisseurs. Alors toutes ces épaisseurs seront impures s'il se couche au-dessus. Et donc c'est cela qui devient impur si c'est en dessous de l'impureté, donc en dessous du Zav. Et aussi, si un ustensile se trouve au-dessus du Zav, même s'il ne le touche pas directement, par exemple, il y a quelque chose qui fait écran, mais en tout cas, cet ustensile est au-dessus de lui, celui-ci devient impur. Donc le Zav transmet l'impureté aussi pour ce qui est au-dessus de lui, ce qui est porté par le Zav, même s'il ne le touche pas. En d'autres termes, ce que la Braïta nous enseigne, c'est que la loi concernant l'impureté flottante ne s'applique que si le doute concerne une impureté transmise par le toucher, et le doute est donc si cette impureté a été touchée ou non. Mais si le doute se lève concernant une impureté transmise par le port, donc c'est Tumat Massa, par exemple, dans le cas d'un objet qui serait porté ou bien qui supporterait le Zav, si un doute se lève à ce sujet, donc, si le Zav était dans une étendue d'eau, il a un doute s'il a marché au-dessus d'un matelas ou d'un drap, ou bien si quelque chose était au-dessus de lui, s'il l'a bougé, même s'il ne l'a pas touché directement, nous dirons que dans ce cas, l'objet est devenu impur. Parce que la loi concernant l'impureté flottante ne s'applique que dans le cas où le doute est concernant le toucher, pas concernant un autre type d'impureté. Donc c'est la Touma de, par exemple dans le cas de la Touma de Massa, si l'objet a été porté par un Zav, ou bien dans la Touma de Oel, si la personne est passée au-dessus d'un morceau de cadavre, ou bien si le morceau de cadavre est passé au-dessus de lui, si le doute se lève à ce sujet, nous dirons que les objets ou l'homme est devenu impur. La Gemara demande, Ba'e Rami Bar Chama. Rami Bar Chama s'est posé la question suivante. Met Bekli, si nous avons un cadavre, un morceau de cadavre, dans un ustensile, ou Kli Tsaf Alpene Amaim, et cet ustensile est flottant sur l'eau. Donc ici, il s'agit d'un cas où la personne ou l'objet qui se trouvait dans cette étendue d'eau n'ont pas été en contact avec le mort, ils n'ont pas été en dessous ni au-dessus. Le doute était seulement si le cadavre a été touché ou non. Alors, puisque le doute qui s'est levé ici est concernant une impureté flottante transmise par le toucher, on aurait dû appliquer le principe enseigné plus haut et on aurait dû déclarer l'objet ou la personne étant pur. Le problème est ici que ce cadavre ou ce morceau de cadavre n'est pas directement sur l'eau, mais dans un ustensile. Mahou. Alors là, quelle est la halakha? Batar kli azlinan. Est-ce que nous dirons selon l'ustensile, c'est-à-dire en d'autres termes, puisque le morceau de cadavre est déposé dans un ustensile, il est donc fixe, même si l'ustensile lui-même est flottant, nous considérons quand même cette impureté comme n'étant pas flottante, au batar mita azlinan, ou bien est-ce que nous irons suivant le cadavre lui-même, et puisque le cadavre lui-même est flottant, même par l'intermédiaire de l'ustensile, nous dirons qu'il s'agit ici d'un doute concernant une impureté flottante. Si tu me dis que dans ce cas, si tu tranches donc cette question en disant que nous irons d'après l'ustensile, par conséquent donc nous dirons qu'il s'agit d'un cas où l'impureté n'est pas flottante puisqu'elle est posée dans un ustensile, même si cet ustensile flotte, nous nous poserons la question dans un autre cas. Met algabe sheretz mahu. S'il s'agit d'un cadavre ou d'un morceau de cadavre qui se trouve sur un reptile flottant. Il ne s'agit donc pas d'un ustensile, mais il s'agit de deux impuretés ensemble qui flottent. Alors, qui vande hai tumat erev va hai tumat shiva, puisque l'impureté transmise par le reptile ne cause qu'une impureté dont on peut se purifier le jour même. Va hai tumat shiva, et l'impureté transmise par le cadavre était une impureté pour 7 jours. Keman de Marta Tuma Bikli Damia, nous dirons que nous considérons ce cadavre n'étant pas posé sur l'eau, mais il est posé sur un ustensile. En d'autres termes, ce reptile fait écran entre le cadavre et l'étendue d'eau. Nous considérons donc que ce cadavre n'est pas flottant. Par conséquent, donc, la personne qui a un doute s'il l'a touché ou non est devenue impure. Odilma Tumas Mirtahi. Ou bien nous dirons qu'il s'agit ici d'une grande épaisseur d'impureté, puisque soit le cadavre, soit le reptile sont impurs, et nous dirons que toutes les deux sont flottants, et il s'agit d'un doute concernant une impureté flottante. Et si tu trancheras cette question en me disant que dans ce cas, puisqu'il s'agit de deux types d'impuretés différents, nous considérons donc ce cadavre comme étant posé dans un ustensile. Vetame, par conséquent, la personne qui est en doute s'il l'a touché ou non est devenue impure. Vadai sheretz al gabe nevela ve nevela tsafa. Alors il est sûr que nous pouvons nous poser la question dans le cas d'un reptile sur un cadavre animal et ce cadavre animal est flottant. Donc ils flottent tous les deux. Là-dessus, nous posons la question mahu kelela alacha kivan de tarvayu tumat erevinun, puisque l'impureté causée par les deux, soit par le reptile, soit par le cadavre animal, est une impureté pour une journée, c'est-à-dire on peut se purifier le jour même. Alors Thomas Mirtaï, nous dirons qu'il s'agit d'une grosse épaisseur d'impureté flottant. Finalement donc si le doute se lève à savoir si la personne qui était dans cet étendue d'eau a touché le reptile, nous dirons que cette personne est restée pure puisqu'il s'agit d'un doute concernant une impureté flottante. Odilma, ou bien ce que nous dirons, Haikazait, la quantité nécessaire pour qu'un cadavre animal transmette l'impureté, c'est la quantité d'une olive, vehaikadasha. Alors que la quantité nécessaire pour que le reptile transmette l'impureté, c'est la taille d'une lentille. Il s'agit donc de deux types d'impureté, et nous dirons donc que le reptile est considéré comme étant posé dans un ustensile. Et nous considérons donc qu'il ne s'agit pas d'une impureté flottante. La personne qui est en doute à ce sujet, donc, est devenue impure. La Gemara nous pose la question suivante. Sheretz al gabe sheretz mahu. Nous pouvons nous poser la question dans le cas d'un reptile posé sur un autre reptile et qui flotte tous les deux. Hanevada echad shuraninu. Est-ce que nous dirons que, puisque la quantité nécessaire pour transmettre la pureté des deux est la même, nous dirons donc qu'il s'agit d'une grosse épaisseur d'impureté flottant et il s'agit donc d'un doute concernant une impureté flottante. Odilma, ou bien ce que nous dirons, qui vient de Mafseke Madade, puisque finalement il s'agit de deux reptiles différents et qui sont séparés l'un de l'autre. Alors nous dirons que nous les considérons comme, nous considérons le reptile supérieur comme étant posé dans un ustensile et donc il n'est pas flottant. Vim Timtel Omar, si tu trancheras cette question en disant Sheretz al Gabe Sheretz, si il y a un reptile posé sur un autre reptile qui lui-même flotte, qui vient des mafsekemadade, puisqu'ils sont séparés l'un de l'autre, kemademan chabeklidamu, nous considérons le reptile supérieur comme étant posé dans un ustensile. Sheretz al gabe nevela shenimocha mahu. Un reptile qui serait posé sur un cadavre animal qui s'est décomposé en étant devenu liquide. Finalement donc, le cadavre animal qui est devenu presque liquide ne ferait peut-être pas écran avec l'eau. Alors, mahu kelela alacha, ki van denimucha, havia le mashke, puisque ce cadavre est devenu liquide, nous le considérons comme un liquide, et finalement, ce reptile est considéré comme étant posé sur l'eau. Il est donc flottant. Odilma, ou bien ce que nous dirons, hay ochlaou, même si ce cadavre animal est devenu liquide, mais puisqu'il transmet encore l'impureté, il sera considéré comme un aliment. En d'autres termes, il n'est pas considéré comme de l'eau, il fera encore écran avec l'eau, et nous considérons donc ce reptile comme n'étant pas posé sur l'eau, mais dans un ustensile. Il n'est pas flottant. Et si tu me tranches cette question en disant que s'il est déposé sur un cadavre décomposé, nous dirons que cela est considéré comme de la nourriture, c'est-à-dire ce cadavre fait écran avec l'eau, et le reptile n'est donc pas considéré comme étant flottant. Sheretz al gabe shechvat zera mahu. Si nous avons un reptile qui est posé sur du sperme, qui flotte sur l'eau, qui lui est aussi impur, ce sperme donc, puisqu'il est liquide, on pourrait se poser la question, est-ce que il formera écran avec l'eau et le reptile n'est pas considéré comme étant flottant, mais comme posé dans un ustensile, ou bien, puisqu'il est posé sur ce liquide, nous dirons que le reptile est considéré flottant. Vim tim tselomar, et si tu ne tranches pas cette question en disant qu'il va demitakra, havele kiochla, une fois que le sperme a quitté le corps de l'homme, il n'est plus considéré liquide, mais comme étant solide. Finalement, donc, nous dirons que ce reptile est considéré comme étant posé dans un ustensile. Sheretz al gabe mechatat, pour nous poser la question dans le cas d'un reptile qui flotte sur de l'eau contenant de la cendre de la paradouma, ou mechatat safim al gabe amaim. Et cette eau contenant de la cendre de la paradouma flotte elle-même sur de l'eau. Mahu kelel alacha. Est-ce que puisque finalement il s'agit effectivement d'un liquide, nous considérons donc ce reptile comme flottant? Ou bien est-ce que nous dirons, puisque cette eau contient de la cendre de la paradouma, il s'agit d'un liquide qui est un peu plus épais, alors ce liquide fera écran avec l'eau, et nous considérerons ce reptile n'étant pas flottant, mais comme posé dans un récipient. La Gemara conclut, le Yadinan, on ne connaît pas la réponse à toutes ces questions. Tekou, c'est une question donc qui reste, ce sont des questions qui restent sans réponse, et Léo Anavi répondra.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page Adav Samerdal et Amudbet. Amar Rav Amnuna, Nazir veose Pesach shealchu bekever atehom beshvi shelahem. Un Nazir, ou bien celui qui voulait offrir un Korban Pesach, qui ont marché sur un endroit où il s'est avéré par la suite qu'il y avait une tombe inconnue, et en fait c'était leur septième jour, c'est-à-dire il s'agit d'un nazir ou d'une personne qui était devenue impure par un cadavre. Ils se sont fait asperger de l'eau contenant de la cendre de la paradouma le troisième et le septième jour. Le septième jour, ils ont marché dans un endroit. Il s'est avéré par la suite qu'il y avait là-bas un cadavre. On a découvert cela après l'offrande du Korban Pessah, ou après que ce nazir ait offert les korbanot de la Nézirout. Bien qu'ils étaient impurs, puisqu'ils n'ont pas terminé la purification, et parce qu'ils doivent encore se purifier dans le mikvé, et que le soleil se couche, quand même nous dirons que, Tehorim, ils sont purs. Maïtama, pourquoi? De lo alima tumat atehom lemista. C'est-à-dire, il est vrai que nous avons vu dans la Mishnah que si le nazir était impur, il voulait se purifier donc d'une impureté par un cadavre, et il est allé dans un endroit où il s'est avéré par la suite qu'il y avait un cadavre, puisqu'il était impur, nous disons qu'il est devenu impur, et rétroactivement donc il devient impur. Mais dans ce cas ici, où il s'était pratiquement entièrement purifié, puisqu'il s'était déjà fait asperger de l'eau contenant de la cendre de la paradouma le troisième et le septième jour, alors cette impureté inconnue n'est pas suffisamment forte pour annuler rétroactivement leur pureté, ou leur pureté partielle. Metiv Rava a opposé à Rav Amnuna notre Mishnah. La Mishnah nous dit, Yarad litaher mitumatamet, si ce nazir est descendu se purifier dans un mikvé de l'impureté causée par un cadavre, tamé, il est impur, shechezkat tamé, et cela, puisque il était déjà impur avant qu'il ne devienne impur à nouveau par l'impureté inconnue, alors il sera considéré comme étant impur rétroactivement. La Mishnah conclut, Shecheskat Tahor Tahor. Par contre, s'il était pur avant qu'il ait passé dans cet endroit où il s'est avéré par la suite qu'il y avait un cadavre, alors puisqu'il était pur auparavant, ce statut de pureté restera, et il ne sera pas impur rétroactivement. Les korbanot de Nézirut qu'il a offert donc par la suite ne seront pas annulés. Nous voyons donc cette Mishnah qui nous parle d'un cas d'un nazir qui était devenu impur par un cadavre et maintenant il descendait se purifier dans un mikvé. Il s'agit donc d'un cas où il s'était déjà fait asperger de l'eau contenant de la cendre de la paradouma le troisième et le septième jour. Et c'est seulement après cela qu'on se purifie dans le mikvé, et quand même nous le considérons comme étant pur, impur, rétroactivement. Amarle, Rav Amnuna lui a répondu, Modina lecha ben nazir, Je suis d'accord avec toi dans le cas du nazir chez Mkhuzar Tiglachat, parce qu'il doit encore se raser. Puisqu'il n'a donc pas terminé sa purification, il est considéré comme étant en statut d'impureté. S'il devient impur par la suite par un cadavre inconnu, il sera déclaré impur rétroactivement. Il a répondu à Rav Amnouna, Af ana modina lecha. Moi aussi, je suis d'accord avec toi et je n'ai pas de question contre toi. Beos et Pessah, dans le cas de celui qui veut offrir le Korban Pessah et qui s'était déjà purifié. Bien, comme le précise Tosfot, même dans le cas du Nazir, s'il s'est déjà purifié, il s'était trempé dans le mikvé et après encore il s'est rasé, de l'homme chusar veloklum, il ne lui reste plus rien à faire pour se purifier. Alors, il est évident que s'il devient impur à ce moment par une impureté inconnue, qui a été découverte par la suite, il ne sera pas déclaré impur rétroactivement. Ce n'est que dans le cas où il lui reste encore une action à faire, qu'il n'est et par conséquent donc il n'a pas terminé de se purifier, il sera encore considéré comme étant en statut d'impureté. S'il devient impur par une impureté, par un cadavre inconnu, il sera déclaré impur rétroactivement. Amar le Abaye. Abaye a posé la question suivante à Rava, Veha Mkhusar Erev Shemesh. Voici que même s'il s'est déjà purifié en se trempant dans le mikvé, ou bien dans le cas du Nazir, il s'est déjà rasé, mais le soleil doit encore se coucher, en d'autres termes, la nuit doit encore tomber avant qu'il soit déclaré comme étant pur entièrement. En effet, celui qui se purifie dans un mikvé après être devenu impur, il n'est déclaré comme étant pur entièrement qu'après que la nuit soit tombée. Finalement, pourquoi est-ce que nous le déclarons donc avant la tombée de la nuit comme étant déjà, comme n'étant plus en statut d'impureté? Amar le, Rava lui a répondu, Shimsha Mimela Arva. Puisque le soleil se couche tout seul, il ne lui reste donc plus rien à faire pour se purifier. Nous le considérons par conséquent comme n'étant plus en statut d'impureté. Par contre, il lui reste encore une action à faire. Il sera considéré en statut d'impureté. Ve'af Habaye Hadarbe. Même Abaye aussi s'est rétracté de sa question, et aussi il pense comme Rava que le fait que le soleil ne se couche n'est pas considéré comme une action d'Etania, parce qu'il a été enseigné dans une braïta concernant l'obligation qu'une femme a d'offrir un korban à la suite d'une naissance. La Torah dit, quand une femme met au monde un garçon, elle observera 7 jours d'impureté, puis 33 jours de pureté. Si elle met au monde une fille, elle observera 14 jours d'impureté, puis 60 jours de pureté. À la suite de ces jours, donc, le 41e jour, s'il s'agissait d'un garçon, ou le 81e jour, s'il s'agissait d'une fille, elle devra offrir un korban. Maintenant, l'obligation d'offrir ce korban est pour toute naissance, même s'il s'agit d'un avortement spontané, à condition qu'il s'agit d'un fœtus suffisamment développé, donc au bout de 40 jours de conception. Alors, la Gemara dit dans Kritut Daftet Amud Bet que la Torah qui conclut le paragraphe concernant l'obligation de l'offrande d'un korban à la suite d'une naissance, le pasuk dit Zot Torat Hayoledet. Voici l'enseignement concernant la femme qui a une naissance. De là, nous apprenons que même si une femme a plusieurs naissances successives, elle n'a pas offert le korban à la suite de la première naissance, elle devra offrir un korban pour chaque naissance. Cependant, si elle a eu une deuxième naissance ou un avortement spontané pendant la période de pureté qu'elle observe après la naissance, donc pendant les 80 jours pour la naissance d'une fille, alors quand elle se sera purifiée et qu'elle aura compté à nouveau les jours correspondants à la suite de la seconde naissance, elle se suffira d'offrir un seul korban pour les deux naissances. Là-dessus, la Braïta dit Yom Melot. Si la naissance a eu lieu le jour où s'est terminé le jour de pureté, donc le 81e jour, comme le précise le Tosfot, Tavi, elle devra offrir deux korbanot. Tochmelot, si par contre la seconde naissance a eu lieu pendant la période de pureté qu'elle observe à la suite d'une naissance, l'otavi, elle ne devra pas offrir deux korbanot. Elle pourra se suffire donc de l'offrande d'un seul korban. La Breta demande, Yachol lotavi al-leda shelifne melot. Il se peut qu'elle n'aura pas besoin d'offrir un second korban pour une naissance qui a eu lieu avant qu'elle termine la première période de pureté qu'elle observe à la suite de la première naissance. Aval tavi al-leda shelachar melot. mais peut-être que nous dirons qu'elle devra offrir un second korban pour une autre naissance qu'elle aurait eue après que la période observée à la suite de la première naissance soit écoulée, c'est-à-dire dans le cas où pendant les 80 jours de pureté observés à la suite de la naissance d'une fille, elle aurait eu un avortement spontané d'une fille, et puis pendant la période de 80 jours de pureté qu'elle doit observer à la suite de cet avortement, elle a eu un second avortement spontané, mais celui-ci a eu lieu plus que 80 jours après la première naissance, mettons par exemple 100 jours. On aurait pu croire qu'elles doivent offrir ici deux korbanot, puisque finalement cette troisième naissance a eu lieu après que la période de 80 jours suivant la première naissance soit écoulée. Selon le Tosfot, nous sautons les deux mots suivants, voir le Birkat Rosh. La Braïta continue, Talmud Lomar, c'est pourquoi le Passouk nous dit, Ubimlot Yemet Tahora, et quand seront écoulés les jours de pureté. De là nous apprenons, Beyom Melot Tavi, pour une naissance qui a eu lieu après que soit écoulé le jour de pureté, elle offrira un second korban, Toch Melot Lotavi, pour une naissance qui a eu lieu pendant la période de pureté, elle n'offrira pas un second korban. En d'autres termes, dans le cas que nous avons cité plus haut, où il y a eu plusieurs naissances successives, et chacune des naissances a eu lieu pendant la période de pureté qui suit une naissance, même si la troisième naissance a eu lieu après que la période de pureté qui suit la première naissance soit écoulée, quand même, elle n'offrira qu'un seul korban. Donc dans le cas où elle a eu une seconde naissance, par exemple le 64e jour qui suit la première naissance d'une fille, puis 64 jours plus tard, elle a eu encore un autre avortement spontané. Bien que nous sommes le 128e jour, donc le 80e jour qui suit la première naissance est dépassé, mais puisqu'elle était toujours en période de pureté suivant une naissance, elle n'offrira qu'un seul korban pour toutes ses naissances. Amar Rav Kahana, l'Agmar explique, Rav Kahana dit, Sha'ani achad emirsera korban. Ici c'est différent parce qu'il manque l'offrande d'un korban. En d'autres termes, puisque cette femme n'était pas dans une situation où elle pouvait offrir encore le korban, puisqu'elle observait les jours de pureté suivant une naissance, elle n'offrira qu'un seul korban à la suite de toutes ses naissances. Alors que si elle était dans une situation où elle pouvait offrir un korban, même si elle ne l'a pas offert, elle devra offrir un korban pour chaque naissance. La Gemara demande, Hatanami mirsera erev shemesh. Il peut aussi arriver un cas où une seconde naissance a eu lieu après les 80 jours, alors qu'on ne s'était même pas purifié dans un mikvé. Donc finalement, elle était dans l'impossibilité d'offrir le korban parce qu'elle ne s'était pas purifiée. Même si elle s'était purifiée tout de suite, il aurait fallu encore que le soleil se couche pour qu'elle puisse offrir le korban le lendemain. Et quand même, la Braïta nous dit que dans n'importe quel cas d'une naissance après que les 80 jours suivant une naissance soient dépassés, elle offrira un korban pour chaque naissance. Amar le Abaye, Abaye a répondu à Rav Kahana, Shimsha Mimela Arva. Le soleil se couche tout seul, ce n'est pas une action qui manque. C'est-à-dire, non seulement dans le cas où elle ne s'était pas purifiée dans le mikvé, où théoriquement elle aurait pu se purifier tout de suite dans le mikvé, nous ne considérons donc pas cela comme une action manquante pour sa purification et nous disons que nous la considérons comme étant dans une situation où elle pouvait offrir le korban. Même le fait que le soleil ne s'est pas encore couché à la suite de sa purification dans le mikvé, ce n'est aussi pas une action qui manque et nous la considérons quand même comme étant dans une situation où elle pouvait offrir le korban. C'est pourquoi donc, s'il a eu une naissance après les 80 jours suivant une naissance, même si elle ne s'était pas purifiée dans le mikvé et que le soleil donc ne s'était pas couché, quand même, elle devra offrir un korban pour la seconde naissance. De là, nous voyons donc que Abaye s'est rétracté et que son avis est que le fait que le soleil ne s'est pas couché, puisque ce n'est pas une action qui dépend de l'homme, ce n'est pas une action qui manque. Cependant, comme le précise le Chazon Ish dans Eben Ha'ezer, Siman Kuf Lamed Tet Siv Katan Tet, il y a une différence entre le cas d'une femme qui a l'obligation d'offrir un korban et le cas de celui qui veut offrir par exemple le korban Pessah. Parce que dans le cas de l'obligation d'offrir un korban à la suite d'une naissance, nous cherchons à savoir s'il s'agit de deux naissances distinctes ou bien d'une même période de naissance. Une fois que les périodes de 80 jours se sont écoulées, même si elle ne s'est pas encore purifiée dans le mikvé, puisqu'elle est dans une situation théorique où elle pouvait offrir le mikvé, nous considérons la seconde naissance comme étant une naissance à part. Elle devra offrir donc un second korban. Par contre, dans le cas de celui qui veut offrir le korban Pessah et qui était impur, seulement il s'était purifié en se faisant asperger de l'eau contenant de la cendre de la paradouma le troisième et le septième jour. Alors s'il ne s'est pas encore purifié dans le mikvé, même si théoriquement elle aurait pu le faire, mais cependant il ne l'a pas fait, nous le considérons encore étant dans un statut d'impureté, s'il s'est rendu impur par un cadavre inconnu et qui a été découvert par la suite après qu'il ait offert le Korban Pessah, il sera quand même considéré comme étant impur rétroactivement. Cela aussi dans le cas du nazir.
Si
par exemple, si ce nazir, avant de s'engager à observer la période de Nazirut, il était devenu impur par un cadavre et il s'était purifié en se faisant asperger de la cendre de la paradouma. Alors si avant de se purifier dans le mikvé, il est devenu impur par un cadavre inconnu, puis il a observé la période de Nazirut et il a offert le korbanot, et après cela on a découvert donc qu'il était devenu impur par un cadavre inconnu, alors la Nazirut sera annulée, puisqu'il était en statut d'impureté. Nous avons fini ici le shiur de Nazir Daf Samech Dalet. Nous commençons le shiur de Nazir Daf Samechet. Nous commençons Daf Samech Dalet Amud Bet à la Mishnah en bas de la page. Dans la Gemara dans Babatra Daf Kuf Alef et Daf Kuf Bet, il est expliqué qu'à l'époque, ils enterraient les morts dans des caveaux familiaux. Ils creusaient tout d'abord un trou d'une certaine profondeur et d'une largeur ou de 6 coudées de côté qui formait une espèce de cour pour accéder au caveau familial. De part et d'autre, ils creusaient une grotte de 4 coudées de largeur et de 8 coudées de longueur. Le long des parois de cette grotte, ils creusaient des espèces de tunnels qui devaient servir de tombe de 4 coudées de long et d'une coudée de large. Ils inséraient ainsi le cadavre, donc couché, la tête la première. Les pieds étaient donc dirigés vers l'intérieur de la grotte. Donc, sur la paroi de la longueur, qui était de 8 coudées de long, il y avait ainsi 4 tombes d'une coudée de large, séparées chacune d'elles d'une coudée de large, et de part et d'autre, donc du coin de la grotte, il laissait une demi-coudée. Cela fait donc 8 coudées. Et ainsi sur la paroi d'en face. Dans la paroi du fond, qui faisait 4 coudées, il creusait 2 tunnels, 2 tombes, avec une coudée d'espace entre les deux et une demi-coudée de part et d'autre pour éloigner la tombe du coin de cette grotte. Quand on creusait ainsi 2 grottes pour former un caveau familial, la première était de cette taille, la seconde était plus petite, parce que dans la première on enterrait les adultes, dans la seconde qui était plus petite, qui ne faisait que 6 coudées de profondeur, de long, on y enterrait les petits-enfants et les bébés mort-nés. Alors la Mishnah dit, Hamotse met, celui qui découvre un cadavre en creusant dans la terre. Bitrila, c'est la première fois qu'il le découvre, c'est-à-dire personne n'en avait connaissance avant. La Gemara expliquera. Mushkav Kedarko, il était couché comme c'est l'habitude d'enterrer les Bnei Israël. Notlo, il peut le déterrer. Vet Fusato et la terre qui vient tout autour. La Gemara expliquera. Shnaim, s'il en découvre deux, Notlam Vet Fusatam, il peut les déterrer et les enterrer ailleurs, et aussi la terre qui les entoure. Matsa Shlosha, par contre, s'il en a découvert 3, Imiesh Benzel Eze, s'il y a entre les cadavres, s'ils sont disposés donc de manière Mi Arba Amot Vachmone, de manière à ce qu'ils auraient pu être enterrés dans une grotte qui fait 8 coudées de long et 4 coudées de large, comme nous l'avons décrit plus haut, Harezu Shrunat Kvarot, nous déclarons ce champ comme étant un lieu de sépulture. Et il y a lieu de craindre qu'il y ait encore d'autres grottes par ailleurs. C'est pourquoi.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.